Les violences intrafamiliales, où en est-on ? Une table ronde proposée au cinéma grand écran de Libourne, à l'issue de la projection de « Jusqu'à la garde », un film de Xavier Legrand. Rencontre organisée par le groupe de travail pluridisciplinaire sur les violences intrafamiliales, coordonnée par le Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance de la communauté d'agglomération du Libournais. Animation et mise en podcast, IT Radio, Nicolas Grouchka.
Bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment d'être venues nombreuses et nombreux pour cette table ronde sur un sujet bien réel et bien difficile, les violences au sein de la famille. En France, elles concernent quand même 44% des plaintes pour violences physiques ou sexuelles selon l'INSEE. Et ici, sur le territoire libournais, on n'est pas beaucoup plus épargné puisque chaque année, c'est une centaine de dossiers pour violences familiales qui est enregistré au tribunal correctionnel de Libourne. L'unité médico-judiciaire du centre hospitalier de Libourne a reçu cette année environ 600 victimes de ces violences. L'association Victed en a reçu presque 400. Et malheureusement, la tendance est plutôt à la hausse. Alors si ces chiffres et interprétations qu'on en fait sont à manier, bien sûr, avec beaucoup de précautions, soulignons que derrière chacun d'eux se cache quand même une histoire bien réelle, un drame, un parcours du combattant héroïque pour sortir de situations compliquées. Et puis, des accompagnements spécifiques par diverses structures dont vous faites sans doute partie. Encore une fois, merci à vous pour votre implication. Tout cet après-midi là, est organisé par un groupe de travail qui se réunit chaque mois pour échanger, pour améliorer sans cesse les dispositifs existants sur le territoire libournais. Émilienne, si vous voulez dire un mot pour présenter un peu ce groupe de travail.
Merci. Du coup, je suis Émilienne Joux, je suis chargée de mission prévention de la délinquance et développement local à la CALI. Et je coordonne notamment donc le groupe de travail qui est présent aujourd'hui et qui a organisé ce ciné-débat. Je voulais donc simplement vous présenter ce groupe de travail qui se réunit depuis plusieurs années déjà, qui se fixe aussi des objectifs ambitieux, puisque en plus de mettre en place des actions de prévention à destination des victimes de violences intrafamiliales, le groupe souhaite développer le partenariat sur le Libournais, mais aussi à réfléchir à comment mettre en place des actions à destination des auteurs de ces violences. Ce groupe, il est multiple. Il y a bien entendu donc le département avec la maison départementale des solidarités, l'association Victed, l'unité médico-judiciaire de proximité du centre hospitalier de Libourne, et l'hôpital, bien sûr, le centre hospitalier de Libourne, au-delà de l'unité de l'UMJP. La gendarmerie, l'association Le Lien, le CIDFF, le tribunal judiciaire de Libourne, et le service pénitentiaire d'insertion et de probation, ainsi que le CCAS de Libourne. Ce groupe donc organise aujourd'hui ce ciné-débat, mais il a aussi créé des supports de communication, d'information. Il y a la plaquette que vous connaissez sûrement déjà, qui reprend les numéros utiles et d'urgence à destination des témoins et des victimes de violences. Et le groupe organise également donc une journée de sensibilisation, une fois par an, depuis plusieurs années également, à destination des professionnels sur la compréhension des mécanismes des violences intrafamiliales, les dispositifs présents sur le territoire et l'orientation des victimes.
Je vais laisser la parole à Madame Evelyne Lavore-Cardona, vice-présidente en charge de la politique de la ville de notre agglomération, la CALI.
Merci, cher ami. Ce temps d'échange qui nous réunit aujourd'hui a été pensé dans la lignée de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Pour mener au mieux ce combat, il faut malheureusement rappeler que les violences intrafamiliales y ont une place prépondérante. Un chiffre éloquent, 4600 victimes de violences conjugales constatées par les forces de sécurité de janvier à octobre 2022 en Gironde. Homicides et tentatives d'homicide, violences physiques et psychiques, viols et violences sexuelles. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulions vous permettre d'être sensibilisés et d'échanger surtout avec des intervenants qualifiés. Je tiens également à vous informer qu'une action de communication vers le grand public a été menée en gare de Coutras, de Libourne, chez les commerçants ou encore sur les réseaux sociaux de la collectivité, avec des opérations de diffusion des numéros d'urgence de plusieurs communes de la CALI. Je donne maintenant la parole à Monsieur Guillaume Marois, commandant de la compagnie de gendarmerie de Libourne.
Bonjour à toutes et à tous. Je représente l'ensemble des gendarmes de la compagnie de Libourne. Ces deux dernières années, l'ensemble des gendarmes départementaux, donc notamment ceux de la compagnie de Libourne, ont été formés à l'accueil et la prise en compte de plaintes dans le cadre de violences intrafamiliales. Les chiffres montrent malheureusement que cette problématique continue. On a atteint fin octobre déjà les chiffres de victimes de l'année dernière. Donc on est à 700 victimes à l'heure actuelle concernées par des violences intrafamiliales. Beaucoup, une augmentation significative du nombre de mineurs qui sont concernés par ces violences et qui doivent donc nous interroger sur le combat qu'on a à mener, parce qu'on sait que la place du mineur est importante pour éviter que certains schémas se reproduisent. Parallèlement, on a une baisse importante du nombre d'interventions des services de gendarmerie dans le cadre de violences intrafamiliales. Donc cette baisse, elle est quasiment de 50% par rapport à l'année dernière, et à côté, on a quand même une augmentation du nombre de victimes. Ça montre pour nous, en tout cas quand on analyse, ça montre que le maillage et l'interaction entre tous les acteurs que vous représentez aujourd'hui fonctionnent bien. Les situations de violences intrafamiliales sont connues plus tôt. Cela permet une prise en charge de la victime avant d'arriver au pire, c'est-à-dire l'intervention des services de gendarmerie la nuit parce qu'il y a eu commission de violence, voire sur des homicides. Donc merci à tous pour cette action que vous faites en partenariat. Soyez convaincus que les services de gendarmerie de la compagnie de Libourne ont bien à cœur cette problématique de violence intrafamiliale et nous travaillons avec satisfaction avec l'ensemble d'entre vous.
En préparant un petit peu avec l'équipe, ce qui m'a particulièrement marqué, c'est que vous travaillez toutes et tous en réseau, en symbiose en fait. On sent que pour accompagner une victime, c'est pas une personne qui va accompagner une victime, c'est tout un processus, tout un tas de professionnels. On va donc essayer de décrypter ces maillages et puis de les questionner aussi. Donc, j'accueille à présent sur le plateau Stéphanie Lars, qui est juriste référente des dispositifs de protection au sein de Victed. Bonjour Stéphanie. Armelle Dubois, assistante sociale au sein de la Maison du département des solidarités de Libourne. Bonjour Armelle. Nous avons aussi Mélanie Ferry, adjudante à la cellule d'atteinte aux personnes de la gendarmerie de Libourne. Et Baptiste Allom, psychologue à l'unité médico-judiciaire de proximité du centre hospitalier de Libourne. Alors, je crois que les violences familiales sont peut-être les plus difficiles à repérer, les plus souterraines, parce que ce qui se passe au sein de la famille, on n'en a pas forcément écho. J'imagine que ça doit être quelquefois difficile de les repérer, et où quand elles arrivent à vous, elles sont déjà à un stade avancé, entre guillemets. Adjudant Ferry.
Oui, malheureusement, on est confronté à ça, je ne vais pas dire au quotidien, mais quasiment tous les jours. C'est ce type d'intervention en fait, qui nous est demandé. Et ce que soulignait le commandant Marois, c'est qu'effectivement, on a moitié moins d'interventions, puisque grâce à tout ce lien avec les partenaires, on arrive non seulement à prévenir les violences, mais à les prendre en charge plus tôt, pour éviter du coup une intervention dramatique telle qu'elle aurait pu se dérouler sur la fin de ce film. Donc du coup, ce qui est vraiment très important, c'est que ce lien partenarial avec toutes les personnes qui sont ici présentes et d'autres, nous permettent du coup d'anticiper un drame, un féminicide, voire pire, et aussi une prise en charge plus précoce en matière familiale et pour les enfants.
Alors on va peut-être redéfinir un petit peu le concept, le terme de violence familiale, parce que Baptiste, j'imagine que ce n'est pas une simple dispute, c'est tout un processus, les violences intrafamiliales.
C'est en partie effectivement considéré dans un processus qui est généralement très insidieux dans son développement, en tout cas dans ses débuts, qui est très souterrain, mais lorsqu'il est mis au jour, il devient effectivement très très important, parce que énormément d'arriérés et beaucoup de choses, avec aussi des violences qui vont être multimodales la plupart du temps, hein, c'est-à-dire que on ne va pas avoir, excusez-moi, entre guillemets, que des coups et blessures. On va avoir aussi alors énormément de choses au niveau psychologique, de violences psychologiques qui vont vraiment rayonner sur la quasi-totalité de la vie de la victime ou de la cellule familiale.
Et puis vous vouliez aussi définir le terme d'emprise, qui me paraît assez important dans ce genre de situation.
Qu'on aurait peut-être pu voir autrement. Alors évidemment, il y a différentes sortes d'emprises. Là, très clairement, c'est très en nuance, c'est très fin dans le film, mais là, on le voit le mieux, c'est dans cette idée où l'auteur est dans cette espèce de diptyque où il y a à la fois de la dépossession et de la domination. L'autre m'appartient. c'est mon fils, est-ce que tu baises avec lui ? J'ai le droit de savoir, je suis qui pour toi ? J'ai le droit de savoir où tu vis ? Il y a vraiment cette idée où tu es à moi, tu es beaucoup plus mon objet qu'un sujet opérant par toi-même, et c'est là où vraiment l'emprise, en tout cas dans le film, me semble-t-il, on le voit vraiment à cet endroit-là, quoi.
Il y a plusieurs modalités aussi dans la violence. Elle peut être effectivement physique, elle peut être psychologique, corporelle.
Virtuellement, je dirais qu'il y a pas de limite, c'est à la guise de l'imaginaire de l'auteur, j'ai presque envie de dire. Le dernier cas récent que j'ai eu la chance ou la malchance de voir à l'UMJ, c'est un cas de violence sanitaire. Parce que vous comprenez, hein, le mari faisait comprendre à sa femme que se laver, ça consommait beaucoup d'eau. Donc c'était pas possible, donc il fallait plus que sa femme se nettoie, il fallait qu'elle se lave que quand monsieur avait dit que c'était le bon moment.
C'est impressionnant. Et c'est impressionnant par le nombre aussi. Stéphanie me disait que toutes les demi-heures, il y avait un coup de fil d'une personne qui appelait pour un besoin particulier, en fait.
Oui, encore une demi-heure, c'est long. Effectivement, oui, non, mais c'est malheureusement, on a énormément de situations. Après, elles sont toutes différentes. Il y a des violences qui sont distinctes selon les cas. Donc, il n'y a pas une situation qui ressemble à l'autre, même si on retrouve effectivement des stigmates similaires dans beaucoup de situations. Mais effectivement, on a beaucoup, beaucoup de cas avec une prise en charge qui va nécessiter d'être individuelle en fonction de ce qui se passe au sein de la famille, au sein du couple.
Vous êtes la juriste, donc c'est vous qui intervenez au sein de Victed.
Tout à fait, c'est ça.
Donc Victed, qui est cette association ONG, comment on peut qualifier ?
Alors, une association agréée par le ministère de la Justice. On est habilité donc à prendre en charge toutes les victimes d'infractions pénales. Sur le nombre de victimes reçues par an, on a énormément de victimes de violences intrafamiliales. Sur l'année 2022, on est à 2500 victimes de violences intrafamiliales.
Donc, si je comprends bien, ce sont des victimes qui ont déjà entamé la procédure judiciaire.
Alors, on peut recevoir des personnes qui sont dans la réflexion du dépôt de plainte. En tant que juriste, on peut les recevoir effectivement avant le lancement d'une procédure pénale, justement pour les éclairer sur leurs droits, sur ce qu'est une plainte, sur les conséquences aussi d'une plainte et sur les mesures de protection qui peuvent exister, justement dans le but de rassurer la victime, puisqu'on sait que le lancement d'une procédure judiciaire, ça fait peur. Ça fait peur non seulement par la machine judiciaire qui se met en route, mais également pour leur sécurité. Donc effectivement, on a ce rôle d'information sur les droits et sur ce qui existe en termes de protection. Et on reçoit également, bien sûr, les victimes qui ont déjà déposé plainte. Et dans ce cas-là, il y a vraiment un rôle d'accompagnement et d'évaluation aussi tout au long de la procédure, puisque l'évolution de la procédure et de la situation conjugale ou intrafamiliale peut conduire à la nécessité de mettre en place une mesure de protection.
Oui, et ça, c'est un de vos enjeux les plus importants, c'est d'évaluer justement par divers moyens la mise en danger potentielle de la victime. Ça ne doit pas être facile parce que y a des situations où l'émotion domine, comme on l'a vu dans le film, des fois on ne peut pas forcément savoir, il faut s'appuyer sur des preuves. Comment vous faites ? Quels sont vos outils, vous, pour arriver à déceler un ressenti qui va servir ensuite au rapport judiciaire, d'ailleurs ?
L'habitude. C'est aussi un élément important, le fait qu'on ait une expertise aussi par le nombre de traitements qu'on effectue par an. Il y a une expertise qui se met en place, on arrive à détecter par un certain nombre de critères à la fois de vulnérabilité de la victime, mais également du contexte conjugal et intrafamilial qui nous permet effectivement de déceler des situations où il y a une potentielle montée en puissance de l'auteur aussi. Alors on n'est pas forcément... On n'attend pas, nous, dans notre évaluation, forcément des faits graves. Ça peut partir, effectivement, d'un harcèlement. Mais il faut toujours se méfier, effectivement, des situations où ça n'apparaît pas de manière flagrante, en fait. La violence n'apparaît pas de manière flagrante. On peut avoir, effectivement, une situation de harcèlement qui peut déboucher sur un drame. Et justement, il faut être attentif à plusieurs éléments de contexte, en fait, et notamment quand il y a des enfants, la cristallisation des tensions qui peuvent se créer en fait autour de l'enfant, même s'il n'y a pas de coup, même si vous ne recevez pas une victime qui a des bleus partout, il faut toujours rester vigilant et bien prendre en considération tout ce contexte en fait qui gravite autour de la procédure et son évolution. solution. Et c'est ça qui nous permet, dans nos évaluations, de détecter. Il y a une question de ressenti aussi, hein, voilà. Mais on reste objectif dans les critères qu'on réunit. Et après, bien sûr, c'est au parquet de décider des mesures de protection. On n'est pas décisionnaire. Nous, on va essayer de réunir un maximum d'éléments pour conduire, en fait, le parquet à prendre la meilleure décision de protection pour la victime. Et effectivement, des fois, c'est pas évident, mais c'est justement sur ces situations les moins flagrantes qu'il faut être le plus diligent et avoir un maximum de vigilance.
Donc, informer, évaluer et puis protéger par la suite. Quels sont les moyens de protection qu'on peut offrir aux victimes?
Alors, il y a les moyens de protection, on va dire, plutôt classiques. Moi, je les appelle les mesures de protection. C'est tout ce qui va être les interdictions d'entrer en contact, les interdictions de paraître en certains lieux, notamment le domicile de la victime ou le lieu où elle est hébergée, s'il est connu de l'auteur, bien évidemment. Et puis ensuite, il y a les dispositifs de protection de l'État, tels que le téléphone grave danger et le bracelet anti-rapprochement. Alors le principe du téléphone grave danger, donc c'est un dispositif qui se présente tel qu'un smartphone classique que vous avez tous dans votre poche, sauf qu'il s'agit d'un dispositif de l'État qui ne sert donc pas à un usage personnel, mais c'est un dispositif qui est remis à une victime qui serait en danger de mort imminente sur décision du procureur. Et sur ce téléphone, le bouton qui vous sert, vous, sur le vôtre, à le mettre en veille ou à l'éteindre, et sur ce smartphone, un bouton d'urgence si la victime le presse de manière frénétique 3 fois, ça déclenche une plateforme d'urgence qui alerte les forces de l'ordre sur une intervention prioritaire. Les forces de l'ordre ont déjà toutes les informations sur la victime, le téléphone grave danger est géolocalisé et donc on a une intervention bien plus rapide.
Et Stéphanie Lars, dans vos premiers rendez-vous, dans vos premières rencontres avec les victimes, qu'elles soient par téléphone ou en physique, quelles sont les questions les plus récurrentes ou les points qui reviennent assez souvent ?
Généralement, c'est sur les conséquences de la plainte. En fait, comment ça va se passer après, combien de temps ça va durer, que va prendre l'auteur aussi en termes de peine. C'est vrai que ça revient énormément parce que paradoxalement, des fois, il y a une envie de répression, mais des fois pas du tout, puisque certaines victimes, ce qu'elles cherchent, c'est plutôt la protection plus que la répression finalement. Alors c'est pas une généralité, rien ne peut être généralité en fait, c'est au cas par cas, mais c'est l'une des questions qui revient le plus. Et ensuite, évidemment, quand il y a des enfants, beaucoup de questions sur comment ça va se passer par rapport aux enfants et donc la procédure juge aux affaires familiales.
Je pense qu'il doit y avoir aussi des inquiétudes économiques parce qu'une procédure judiciaire, ça a un coût et peut-être que certaines personnes n'osent pas l'entamer à cause du coût que ça représente. Comment vous les accompagnez pour justement que l'économie ne soit pas un frein ?
Alors pour la partie procédure pénale, il faut savoir que l'avocat n'est absolument pas obligatoire pour la victime, ce qui est important de le rappeler. Alors des fois, il va être évidemment nécessaire, mais dans un premier temps, il n'est pas obligatoire. On essaye de les rassurer là-dessus qu'il n'y aura pas forcément de frais d'avocat engagés, en tout cas pas dans un premier temps. Et nous, on est en mesure de justement pallier, on va dire, ce vide temporaire, qui peut être que temporaire, pour donner des informations sur l'évolution de la procédure. Et quand le moment est venu, quand la nécessité est venue de l'avocat, on leur explique tous les mécanismes d'aide financière qui peuvent exister par leurs assurances, par l'aide de l'État, par l'aide juridictionnelle. Voilà, on essaye de les accompagner au mieux si vraiment elles veulent un avocat ou que l'avocat s'avère nécessaire de mettre en place des aides. On peut trouver des solutions d'aide financière, donc on essaye de les rassurer là-dessus et que ça soit absolument pas un frein dès le départ, parce que si c'est un frein dès le départ, on sait qu'une victime, elle a déjà mis du temps à oser parler de ce qu'elle vit, et donc si tout de suite la considération financière vient la braquer, ça peut venir anéantir totalement ce premier pas qu'elle a fait, et c'est pas du tout le but en fait.
Et à l'issue de ce premier rendez-vous, c'est là aussi où vous orientez l'accompagnement soit vers vous, soit envers d'autres partenaires pour que la personne soit aidée au mieux selon ses propres besoins en fait.
Bien sûr, déjà au sein de Victed, on est une équipe pluridisciplinaire, donc on a des intervenantes sociales en gendarmerie et des psychologues. L'intervenante sociale en gendarmerie, les gendarmes saisissent automatiquement notre intervenante sociale en gendarmerie, et nous, en tant que juristes, si on a une situation qui nous est venue avant même que la personne ait déposé plainte, bien sûr, on va s'appuyer sur nos intervenantes sociales en gendarmerie qui sont un lien privilégié, effectivement, effectivement, avec aussi les partenaires sociaux, puisque ça va permettre vraiment de mettre un petit peu tous les partenaires dans la boucle et de proposer à la victime un accompagnement pluridisciplinaire et sur tous les pans, en fait. Parce qu'on sait qu'on n'est pas juste sur une question de lancer une procédure judiciaire. Et tout ça, ça va entraîner plein de bouleversements, de questionnements du point de vue du logement, du point de vue financier, plein de choses en fait. Et ça peut, cette décision de lancer une procédure judiciaire, ça peut vraiment bouleverser la vie de la victime, et un accompagnement pluridisciplinaire, et c'est absolument nécessaire. Et c'est pour ça aussi que le travail en partenariat est indispensable.
Oui, ça enclenche plein de pans de la vie. Exactement. Et du coup, il faut activer aussi, comme vous dites, le logement, la santé, les enfants, etc. Exactement. Et j'ai l'impression que le temps là-dedans, il joue beaucoup, que c'est une notion importante dans votre métier, que ce soit le temps psychologique des victimes pour qu'elles arrivent à maturer ce qui leur est arrivé, le temps de la procédure aussi qui peut être fois un peu contraignant, le traitement des dossiers. Je pense que c'est une contrainte pour vous, le temps.
Une contrainte, oui et non, parce que notre métier, c'est aussi de s'adapter à ce temps-là et de pallier à ce temps-là, justement en rassurant la victime. Il y a le temps de la victime, donc, qu'on doit respecter absolument, parce que c'est la base, c'est les fondations, en fait, hein, de tout ça. Donc il faut respecter ce temps-là, ce travail psychologique. C'est pour ça qu'il peut arriver qu'on ait des victimes avant même tout dépôt de plainte, qu'on oriente vers nos psychologues pour qu'elles puissent faire un travail là-dessus et justement préparer, se sentir prête au dépôt de plainte. Et une fois que c'est fait, il faut aussi respecter le temps de digérer en fait tout ça, et en parallèle bien sûr il y a le temps de la procédure. Alors des fois c'est long, des fois c'est très rapide, c'est encore une fois au cas par cas, en fonction de la gravité, en fonction du traitement judiciaire du dossier, et en fonction de ce temps judiciaire on s'adapte, et on adapte aussi la protection, évidemment, à chaque dossier, sa réaction et sa protection.
Et vous me disiez aussi que dans la digestion, elle n'est pas forcément linéaire. Quelquefois, il y a des allers-retours, des retours au domicile conjugal, alors que c'est un milieu dangereux.
Et oui, c'est un métier frustrant. Non, c'est vrai qu'il faut, en faisant ce métier, accepter ce phénomène d'aller-retour. Ça s'explique par des mécanismes psychologiques. La victime, effectivement, elle peut être amenée en fait à faire ces allers-retours, et donc, des fois, mettre à mal tout ce qu'on a mis en place dans un premier temps, ou en tout cas, commencer à mettre en place. Voilà, si ça ne va pas au bout la première fois, ça ira peut-être au bout la deuxième. On essaye de rester bienveillant, que bien sûr, la porte, elle reste toujours ouverte. Ça, c'est clair, il ne faut absolument pas fermer cette porte, malgré les allers-retours, aussi nombreux qu'ils soient. Il faut toujours rester à l'écoute, et il faut également ne pas hésiter à signaler et à informer la victime. Attention, il n'y a pas de souci, vous faites comme vous le sentez, mais là, il y a une situation de danger. Nous, à nous aussi de signaler, d'être proactif si on détermine qu'il y a un danger absolument important dans la situation.
Quitte à prendre des nouvelles de temps en temps aussi.
Bien sûr.
Je vais me tourner à présent vers l'adjudant Mélanie Ferry. Vous aussi, un métier de passion, vous m'avez confié à vouloir faire gendarme depuis toute petite. Et depuis 2 ans que vous êtes à Libourne, vous faites partie de la cellule CAP, cellule d'accompagnement aux personnes et à l'enfance. Presque. D'atteinte aux personnes et à l'enfance, pardon. Et en fait, vous êtes en quelque sorte la porte d'entrée de la procédure, une des portes d'entrée possibles, puisque vous êtes la première personne à recueillir les témoignages des victimes, enfants compris, et c'est là aussi où on va en parler. Votre enjeu, c'est de faire en sorte que les mots soient justes, qu'ils soient posés, qu'ils soient pesés, sans droit à l'erreur ou à l'interprétation. Vous devez de rester neutre, parce que c'est ce rapport, le premier rapport, qui, à l'issue de l'audition, sera retransmis en justice. Et c'est là-dessus que tout le monde se basera, donc il faut pas faire d'erreur. Du coup, il y aura ensuite des actions judiciaires de soutien, d'accompagnement, de protection. Et pour la première rencontre, notamment avec les mineurs, vous opérez selon un protocole bien précis d'accueil et de mise en confiance, le protocole NICHD. Alors, en quoi consiste-t-il, ce protocole ?
Oui, alors donc du coup je reprends juste le début de votre propos. Donc on n'est pas les premiers intervenants en matière de violence intrafamiliale pour les majeurs, d'accord. Les femmes qui sont victimes de violences conjugales, que ce soit à l'issue d'une intervention ou parce qu'elles viennent d'elles-mêmes dans les unités, elles vont d'abord en brigade et ensuite on nous saisit à nous pour l'accompagnement avec le lien très étroit de l'intervenante sociale gendarmerie et aussi la prise en compte des mineurs au foyer. La dame, elle dépose quand même plainte dans une unité de gendarmerie de son choix et après le dossier nous revient. Nous, effectivement, on prend en compte une grosse partie des mineurs victimes via un protocole, le NIST, c'est ce qu'on appelle ça. Donc c'est anglais, je vous le dirai pas, j'ai un anglais trop mauvais. C'est un protocole qui nous permet du coup d'avoir une mise en confiance par rapport à l'arrivée de l'enfant. Donc quand il va rentrer dans nos locaux, quand on va essayer d'avoir un lien de confiance entre lui et nous pour qu'il puisse un maximum nous donner d'informations. Ce sera pas une audition classique, c'est un entretien. On va discuter avec l'enfant. On peut d'abord jouer un peu avec lui au début dans une pièce particulière, puis après, on lui montrera une salle d'audition avec une caméra sans écran, et c'est là où on va discuter. Et on va petit à petit, avec des questions spécifiques, l'amener, et surtout c'est que des questions ouvertes, jamais de questions très précises sur les faits, on va toujours rester très large pour ne pas orienter l'enfant sur ce qu'on a envie qu'il nous dise.
C'est lui qui raconte.
C'est lui qui raconte, c'est vraiment une parole spontanée. Nous, on va vraiment avoir ce protocole qui nous aide et qui est une jolie trame en fait en matière de violence physique, mais aussi d'atteinte sexuelle et de harcèlement, tout ce qui va être lié aux infractions pour les mineurs.
Et en plus de ça, vous êtes là, vous êtes en uniforme. Je crois que vous ne l'avez pas lors de ces audiences.
Alors oui, la plupart du temps, donc avec les autres filles qui sont là, donc de la CAP, on travaille en civil parce qu'un enfant qui arrive à la CAP et qui voit notre uniforme et notre arme. La première chose qu'elle va nous demander, c'est est-ce que c'est un vrai ? Est-ce que c'est un jouet ? Est-ce que je peux l'utiliser ? Alors que du coup, tout de suite, si on tombe la barrière d'uniforme, on n'aura pas cette question et on va pouvoir plus rapidement capter son attention. Et c'est ce qui est important. Parce qu'un enfant de 5 ou 6 ans, essayer de le tenir pendant 10 minutes sur un sujet compliqué tel que les violences ou une agression sexuelle, c'est pas simple. Donc si déjà on peut s'enlever cette partie de l'uniforme et de l'arme, on lui en parle pas, il nous en parle pas et on passe directement à une mise en confiance autre et à l'entretien avec les choses sérieuses.
Et la caméra, c'est pour capter ses gestes s'il n'arrive pas à s'exprimer
Non, c'est pour éviter d'avoir un lien écran entre l'enquêteur et l'enfant. Vous savez, quand vous venez en gendarmerie, même pour un vol de vélo, on vous entend derrière un écran et derrière un clavier. Là, l'enfant, en fait, pour éviter cette barrière entre lui et nous, d'avoir une caméra qui est cachée dans la pièce, on lui montre qu'il y a une caméra, on lui dit qu'il va être filmé, mais au moins, ça permet du coup d'avoir cette barrière en moins entre nous deux. Voilà, donc il n'y a pas la barrière de l'uniforme, il n'y a pas la barrière de l'arme et il n'y a pas non plus la barrière de l'écran. Donc on est vraiment, lui et moi, tel que je suis en train de vous parler.
Les enfants, on l'a vu, sont souvent entre les parents qui se disputent. Oui. Quelquefois, ils font passer des messages bien malgré eux. Comment se comportent-ils ? Comment sont-ils en général les enfants que vous recevez ? Je sais qu'on ne peut pas faire de généralité, mais est-ce qu'il y a des caractéristiques que vous retrouvez presque systématiquement ?
Alors oui, on a le caractéristique de l'enfant qui est instrumentalisé entre les deux parents, qui lui aura été briefé soit par la mère, soit par le père, et ça on va le voir direct. Donc on sait que malgré tout, si on commence ce protocole et qu'il doit durer plusieurs minutes, ça ne servira à rien parce qu'on n'arrivera pas, il a été briefé par l'un des deux parents. Ça on le voit. Et puis il y a l'autre enfant qui n'a pas du tout été briefé, puis qui va parler comme un livre et qui va dérouler toute son histoire et tout ce qu'il a à nous raconter. Effectivement, il n'y a pas de généralité, mais on va rapidement voir l'enfant qui a été déjà manipulé, instrumentalisé par les parents ou possible par un autre membre de la famille. C'est pas forcément que les parents. Après, ce qui est dommage dans toutes ces histoires, c'est que les enfants, en fait, comme dans le film, on voit que l'enfant, il veut protéger sa mère et sa sœur et qu'à 11 ans, c'est pas son rôle. Et malheureusement, on en a de plus en plus. Et c'est aussi pour ça, je pense qu'on a encore plus de victimes en ayant fait baisser le nombre d'interventions, parce que les enfants se confient plus, notamment dans le milieu scolaire ou dans le milieu associatif et sportif. Donc un enfant qui va dire à son infirmière du collège ou alors à son prof de tennis, tiens, papa, maman, ils se disputent souvent, c'est un nouveau canal pour détecter une violence. La dame au niveau du collège, l'infirmière scolaire ou la psychologue scolaire va faire un signalement qui va arriver chez nous. Pour autant, la femme n'est jamais déposée plainte contre son mari dans une brigade. Mais c'est l'enfant, en fait, qui peut-être inconsciemment aura déclenché ça en disant qu'à la maison, ça crie souvent, papa, il n'est pas gentil avec maman, et hop, ça aura fait tilter l'infirmière scolaire ou la psy ou alors d'autres personnes, et on aura un signalement qui nous arrivera directement et qui, du coup, ouvrira derrière sur une procédure de violence intrafamiliale. Donc, c'est aussi peut-être pour ça qu'il y a moins d'interventions, mais encore plus de victimes, parce qu'on est saisi d'une manière différente, les enfants. Certains ont la parole beaucoup plus libre.
Donc les enfants en bas âge, j'imagine que ce sont les membres de la famille qui les amènent. Pour les adolescents, ils viennent d'eux-mêmes, pour la plupart du temps ?
Oui, ça dépend de l'âge, mais oui, on les convoque soit à l'institut du lycée ou du collège, ils viennent nous voir aussi. Ils sont contents de nous voir à la CAP, on a un super retour des jeunes qui viennent nous voir entre 12 et 17 ans, je dirais. C'est des locaux qui sont très agréables, on n'est pas dans un milieu gendarmerie, on est dans les locaux de la sous-préfecture et c'est un milieu vraiment beaucoup plus aseptisé et avec une arrivée, une salle d'accueil, enfin voilà, c'est vraiment plus agréable pour les personnes. Et du coup, oui, ils viennent nous voir soit tout seuls, spontanément parce qu'on les appelle sur leur portable directement, ou alors avec un membre de leur famille.
Donc vous prenez la déposition avec ce protocole particulier, et puis ensuite une partie de votre travail c'est aussi de réquisitionner, de faire des recherches pour vérifier ce qui a été dit.
Alors oui, c'est aussi une des parties de notre travail. Dans la partie mineure, effectivement, la plupart du temps, ils sont victimes. Et donc, du coup, on fait un examen UMJ donc, avec les services du docteur Chonk à l'UML du pavillon 20 de l'hôpital Robert Debré. Petite pub pour le pavillon 20. Et aussi, beaucoup de réquisitions psychologiques ou psychiatriques qui nous sont aussi demandées sur instruction du parquet. À chaque fois, nous, on rencontre de nos investigations aux magistrats qui nous demandent, effectivement, même si on oriente aussi la procédure, de faire des examens médicaux, oui, on est obligé. Et après, on entend des témoins, on fait des investigations, des environnements scolaires, des environnements MDS, on est en lien avec notre intervenante sociale. On recueille un maximum d'informations pour porter à la connaissance du magistrat qui prendra une décision une fois que l'auteur aura été interpellé ou entendu.
Vous ne parlez pas beaucoup des auteurs, d'ailleurs, vous les rencontrez ? Vous prenez aussi leur déposition ?
Alors oui, nous à la CAP, on va prendre les auteurs qui sont mineurs, d'accord ? Une fois qu'ils sont majeurs, ils vont rester dans les unités de gendarmerie. Nous, on s'occupera des auteurs mineurs, parce qu'il y en a malheureusement aussi, oui. Mmh.
On va peut-être faire un premier tour de salle pour savoir si vous avez des questions, des remarques, des conseils. Madame là-bas.
Oui, moi je pensais à la notion d'emprise et j'ai également pensé à l'emprise de l'auteur qui est complètement enfermé dans son impossibilité à gérer la séparation. C'est bien dans le film que ce soit dit, la mère exprime à son mari qu'il a besoin de soins et je n'ai pas l'impression que ce soit la provocation. Il est réfractaire à tout discours rationnel. Il passe à l'acte, il manipule, il domine. Et moi, j'ai vraiment ressenti dans le film qu'il ne pouvait pas faire autrement. Donc en prise aussi, certainement par rapport à lui et à sa propre problématique.
Alors oui, alors effectivement, on peut faire une espèce d'analyse des causes, des multiples causes. Il n'empêche que... À un moment donné, que ce soit au niveau pénal ou au niveau légal, eh ben, ce monsieur, trouble ou pas, il doit quand même répondre de ses actes. On ne peut pas passer à côté du fait que si, effectivement, il est très encroûté, très pris lui-même dans cette emprise, il est le seul à pouvoir en sortir.
C'est vrai que la question des auteurs, il faut et nous devons nous la poser, même si c'est extrêmement compliqué et que jusqu'à présent, c'est plus l'accompagnement des victimes qui a été abordé, réfléchi. Il s'agit d'un système. Et si nous n'intervenons pas sur l'ensemble des membres du système qui est mis en cause et qui est dysfonctionnel, je crois vraiment que nous ne pourrons pas envisager de combattre la question de la récidive. Parce que c'est de ça dont il est question quand on parle des auteurs. Et oui, aujourd'hui, la prise en charge des auteurs, elle se développe, mais elle se développe peu, insuffisamment à la hauteur du nécessaire. En complément de la question pénale, la question de la prise en charge et de l'accompagnement des auteurs, nous le savons, ne peut pas se résumer sur le versant pénal et doit venir du côté du soin et doit venir aussi du côté du socio-éducatif parce que l'auteur ou l'autrice a été un enfant lui-même à un moment donné pris, en tout cas pour 85% d'entre eux, dans les méandres d'une maltraitance et de violence intrafamiliale, violence conjugale quand il était enfant. Donc oui, c'est bien évidemment qu'il faut se la poser.
Et qu'est-ce qui est fait justement pour accompagner les auteurs dans le soin et pas forcément dans la répression ?
Alors, sur Bordeaux, il y a eu, et nous avons vu l'émergence d'un lieu pour accompagner les auteurs qui ne sont pas forcément en pré-sentenciel ou après une condamnation. Ils ont des auteurs ou des autrices qui viennent spontanément à eux. Mais je le redis, nous sommes très, très loin encore aujourd'hui, et ce n'est pas lié au département de la Gironde ou à la région Aquitaine, nous sommes encore loin de l'accompagnement spécifique dont doivent bénéficier les auteurs et les autrices.
On va prendre une deuxième question, juste devant.
Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a des manifestations actuellement au niveau des magistrats et au niveau des psychiatres. Donc je me dis, quels sont les moyens dédiés justement pour prendre en charge les enfants, les femmes et aussi les hommes auteurs. J'ai l'impression qu'il y a énormément de choses qui sont faites au niveau associatif, mais ça ne suit pas là-haut, je pourrais dire. Donc ça, c'est assez dommageable, en fait.
Stéphanie.
Vous dites qu'il vous semble qu'au niveau associatif, il y a pas mal de choses qui sont faites. Je vais parler pour Victed. On travaille en collaboration quotidienne avec le parquet de Libourne, mais également le parquet de Bordeaux, bien sûr, mais on va parler du territoire sur lequel on se trouve. On travaille au quotidien avec le parquet de Libourne, qui a un procureur référent en matière de violence intrafamiliale et une chargée de mission aussi, qui fait un travail immense sur les dossiers de violence intrafamiliale. Et on est en lien quotidien avec ces magistrats et ce personnel-là. Les moyens, ils sont là quand même, de plus en plus en tout cas. Et quand il en manque, tout est fait pour pallier ce manque de moyens. Depuis que je travaille à Victed et que je suis en collaboration avec le parquet, il n'y a jamais eu de situation où je me suis retrouvée seule ou sans réponse du judiciaire, en fait. Il y a toujours un retour, une réaction. Alors des fois, effectivement, elle ne va pas être à la hauteur de ce qu'espérait la victime, mais pour autant, il y a toujours une réponse, il y a toujours quelque chose qui est mis en œuvre et un sérieux, en fait, dans le traitement des dossiers. Alors c'est vrai, au niveau national, on pourra toujours dire qu'on peut mieux faire, etc., et c'est vrai, mais effectivement, sur notre sort, en tout cas, je vous le dis, parce que c'est important aussi de dire ce qui fonctionne, on dit toujours ce qui ne fonctionne pas, mais il y a une vraie collaboration, il y a un vrai travail qui est fait, et au niveau des moyens, on y arrive. On arrive à mettre en place les mesures de protection. Et pour les auteurs, il y a des choses aussi au niveau judiciaire qui sont mises en place. Nous, par exemple, quand on va, à la demande du parquet, réaliser une évaluation de la vulnérabilité de la victime dans le cadre d'une procédure pénale, on est en mesure de préconiser effectivement une obligation de soins psychologiques ou en addictologie s'il y a des addictions. Et par exemple, si on prend le cas d'un couple où l'un des deux conjoints a du mal à accepter la séparation, et qu'on voit que psychologiquement, logiquement, il y a peut-être quelque chose à travailler. On est en mesure de préconiser une obligation de soins psychologiques. Et derrière, le parquet, dans ses réquisitions, peut reprendre cela. Et si procès il y a, effectivement, ça peut tout à fait être prononcé.
Sur la question des moyens, pour avoir une idée, le conseil départemental, c'est quasiment 1 million d'euros par an qui est mis dans la lutte contre les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales. Il y a une vraie mobilité de la part des associations, mais aussi de la part des institutions. C'est vrai que le Grenelle a permis, il faut le dire, d'accélérer ce qui était déjà un peu en place. Les informations préoccupantes concernant les enfants, justement, sont toutes traitées. La question de l'hébergement, nous savons tous que c'est un problème que de trouver de manière rapide un hébergement pour le parent victime et éventuellement l'enfant ou les enfants. Pour autant, le travail est fait et la mise à l'abri existe, tout comme le fait de faciliter l'accès à des soins en les finançant, ça existe aussi. Tout n'est pas merveilleux, nous le savons. Si un budget de l'État plus conséquent existait, je pense que tout le monde serait d'accord et lèverait la main pour voter pour. C'est sûr.
Alors, on avait une question devant.
Alors, c'est pas pour une question, c'est pour juste un complément de la vôtre. Je suis Pauline Boudias, je suis donc chargée de mission aux violences intrafamiliales auprès du procureur de la République de Libourne. Depuis, justement, le Grenelle des violences conjugales, on a vraiment eu une prise de conscience, une formation des magistrats et des moyens alloués à la lutte contre ces violences intrafamiliales qui a été très significative par rapport à avant. Et dans la prise en compte de la parole des femmes ou des hommes victimes de violences intrafamiliales, il y a bien entendu la parole des mineurs présents qui a été prise en compte. Et donc, en fait, quand une femme vient porter plainte pour des violences intrafamiliales, les mineurs sont systématiquement entendus. Et après, on requiert notamment l'association Victed pour réaliser une évaluation de la situation. Et en fait, à travers tous ces renseignements, que ce soit l'audition des mineurs, les faits dénoncés et l'évaluation réalisée par Victed, nous, ça nous permet au niveau du parquet et du magistrat du parquet de saisir le département en information préoccupante, mais également le juge des enfants, ou de signaler au juge aux affaires familiales ce qui peut se passer. Et on a aussi, comme mesure de protection qu'on n'a pas évoquée, qui est certes un petit peu à la marge de la procédure pénale, les ordonnances de protection, qui permettent en fait aux juges aux affaires familiales de prononcer des mesures provisoires, donc telles que la garde des enfants, le domicile conjugal, une interdiction de contact et de paraître également, dans l'attente du divorce, en parallèle la plupart du temps d'une procédure pénale.
Armelle Dubois, vous disiez aussi une phrase qui résonne beaucoup par rapport à ce qui se passe dans le film. C'est le sentiment d'amour ne définit en rien la qualité de l'exercice parental.
Oui, dans l'imaginaire commun, maltraiter, c'est ne pas aimer. Et le parent qui est victime, il est forcément aimant et il va protéger. Nous savons bien, en étant confrontés à ces situations, que c'est loin d'être binaire. Et dans le film, ça apparaît très bien. Cette maman est tellement dans une angoisse de mort importante qu'elle ne peut plus exercer sa parentalité dans son ensemble. Et c'est là où le volet prévention aussi prend tout son sens, dans l'aide à apporter aux parents victimes et à l'enfant victime dans l'exercice de l'autorité parentale, avec par exemple les mesures éducatives à domicile ou les mesures d'intervention des techniciens d'intervention sociale et familiale. Enfin, nous disposons d'un panel et d'une boîte à outils qui permet de pouvoir soutenir la parentalité, la soutenir directement auprès du parent victime et l'enfant, ou un peu plus indirectement en intervenant par exemple auprès des écoles ou collèges. Souvent le parent victime est celui qui va se rendre à l'école pour aller chercher l'enfant, donc celui qui va recevoir les reproches, voire invectives qui peuvent être faites concernant le comportement de son enfant. Puisque, oui, l'enfant est victime, et je dirais même, il est victime et indicateur, puisque c'est souvent par lui que nous apprenons qu'il y a des violences conjugales.
C'est vrai que dès qu'il y a une procédure qui est enclenchée, ce n'est pas uniquement le volet judiciaire, il y a tout un tas d'autres pans qui le sont. Et vous, c'est un de vos rôles aussi en tant qu'assistante sociale, c'est d'accompagner sur le logement, sur le besoin peut-être de l'enfant mineur, qu'il ait des sorties culturelles ou des rencontres avec d'autres pères qui ont vécu la même chose que lui, sur le besoin de délester peut-être un parent qui est surchargé de travail et qui n'a pas le temps de s'occuper de dossiers alors que c'est nécessaire. Ça fait partie de votre travail aussi, ça.
Et exactement. Le volet prévention est indispensable. Il est indispensable en amont, mais aussi en aval, puisque les violences ne s'arrêtent pas à la séparation du couple parental. Il est indispensable pour combattre la récidive, il est indispensable aussi pour garantir les droits des enfants, et puis pour favoriser son épanouissement et faciliter son insertion, parce que cet enfant d'aujourd'hui, c'est un adulte de demain. Donc ce volet prévention, quand il s'exerce sur un territoire, si on le ramène par exemple nous au territoire libournais, il recouvre les secteurs classiques de l'accompagnement social, donc tout ce qui concerne l'hébergement, le financier, l'administratif, l'accès aux droits. Il s'agit d'accueillir, d'orienter, mais aussi d'accompagner, et d'accompagner physiquement si besoin. Et il recouvre bien évidemment l'accompagnement à la parentalité, que l'on peut identifier à travers différentes mesures proposées. L'importance de conserver pour l'enfant un quotidien avec des pères qui le sortent de son quotidien, parfois encore très maltraitant, c'est-à-dire ne facilitant pas son épanouissement, ne répondant pas à l'entièreté des besoins fondamentaux. Et puis l'amener à vivre des expériences d'enfant, le ramener à ce caractère d'enfant à travers le financement de ses activités culturelles ou sportives, à travers des départs en colo ou des séjours qui peuvent être proposés. Tout à l'heure, je vous parlais du soin, la manière dont on facilite aussi cette question de la prise en charge par rapport au trauma de l'enfant, mais aussi du parent victime. Et ça vaut aussi pour le parent auteur. Pour le coup.
Quelquefois, ça a l'air de rien, mais c'est très important, en fait.
C'est très important, et c'est vrai que ça débute par ces entretiens, qui sont des entretiens qui sont très spécifiques. Et je pense que tous ceux qui travaillent auprès de victimes ou d'auteurs en sont bien conscients, sont des entretiens qui demandent un certain degré d'expertise et une certaine formation, d'où l'importance d'être formé en continu. Ça paraît très simple, mais libérer la parole de l'enfant ou du parent victime n'est pas si aisé. Quand on sait que l'enfant est convaincu de se trouver dans une situation où il peut mettre en danger le parent victime en parlant, le parent auteur Nombreux sont les enfants qui nous ont dit « mais à cause de moi, il va aller en prison mais aussi de devoir être confronté à la propre peur d'être séparé du reste de sa famille, parce qu'il y a une famille élargie, souvent autour de lui, avec des personnes qui peuvent représenter des piliers aidants, hein, des personnes ressources. Donc, faire émerger cette parole n'est pas simple. Et puis, surtout, une fois qu'elle a émergé, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est-à-dire, écouter, c'est bien, entendre, c'est encore mieux. Et c'est là où la question de l'information préoccupante prend tout son sens. C'est-à-dire que c'est là où l'on se doit, tous, professionnels ou citoyens, nous devons tous garder en tête que agir, c'est dénoncer. Alors le mot, il fait très peur, il est lourd de connotations dans l'histoire de notre société. Il n'empêche que c'est par le fait de venir dire et dénoncer notre connaissance de situation où des enfants ou une personne adulte se retrouve en danger qu'il y aura un début de mise en place au niveau du travail qui sera à proposer pour la mise à l'abri, la protection et toutes les démarches judiciaires dans un autre temps.
Je fais un rapide coup d'œil pour voir s'il y a d'autres interventions. Madame là-bas, en haut.
Merci. Alors, je suis psychologue clinicienne. Il y a aussi le côté retraitement, effectivement, des traumatismes répétitifs précoces que peuvent subir les personnes, les enfants, etc. Et dans ce cadre-là, il y a vraiment une thérapie qui fonctionne très bien, c'est la thérapie EMDR. Pour réduire effectivement les états de stress post-traumatique, réduire les symptômes ou voire carrément les faire disparaître en restaurant un sentiment de sécurité.
Baptiste, si vous pouvez préciser un petit peu et confirmer, j'imagine, cette thérapie.
Merci, cher consoeur, pour m'avoir devancé. Oui, alors effectivement, ce n'est pas la seule thérapie existante, mais c'est vrai que c'est une thérapie dont on a déjà prouvé l'efficacité. C'est quand même une des seules psychothérapies qui est à la fois validée par l'OMS et par l'HS, donc à la fois au niveau international et national, on sait que l'efficacité est vraiment démontrée. Et évidemment, plus les traumas sont lointains, plus c'est difficile à traiter parce qu'il y a vraiment un enracinement qui a pris énormément de place et qui a fait beaucoup de dégâts au sein du psychisme. Mais effectivement, même sur des éléments anciens, peut-être avec au moins de la thérapie des schémas, des choses, on va pouvoir vraiment remonter beaucoup plus loin. Mais en tout cas, la thérapie EMDR, a priori, sur les traumas, elle n'a pas de limite. Le but, pour vous le donner très très rapidement, c'est que le trauma, il envahit absolument toute la vie quotidienne. C'est un énorme, là c'est comme si on était devant vous, mais il y avait un énorme obstacle qui fait qu'on ne peut pas se voir. Handicapé par le fait qu'il y ait quelque chose, un énorme truc au milieu de la pièce. Et en fait, cet événement traumatique, il prend énormément de votre mémoire, il prend éventuellement de votre psychisme. Et le but de la thérapie EMDR va être de réduire l'impact de cet événement et faire en sorte que cet énorme obstacle dans la pièce devienne négligeable, qui fait qu'il n'y a plus du tout de problème de vision et de communication entre nous. Et bah, finalement, le problème va disparaître de lui-même une fois qu'on aura réadapté notamment la mémoire traumatique et qu'on aura fait qu'elle est devenue négligeable et qu'elle n'handicape plus la communication. Là, pour reprendre un petit peu cette métaphore-là, c'est grosso modo le principe de l'EMDR.
C'est assez spectaculaire d'ailleurs, je crois que c'est ce qu'on fait avec les yeux, où on fait un basculement des yeux pour arriver à échanger les yeux et les souvenirs de la personne avec une action physique.
Oui, en fait, alors, on se rend compte depuis quelques années que c'est un petit peu plus compliqué que ça. A priori, il n'y aurait aucun élément lié aux yeux, mais il y a effectivement une idée de bilatéralité au niveau du corps. Pas tant au niveau du corps, mais qui est aussi plutôt au niveau du cerveau, où on a deux hémisphères cérébraux qui fonctionnent en miroir. Et il y a un problème de connexion entre les deux hémisphères, et notamment entre deux grosses structures, une qui s'appelle l'hippocampe et l'autre qui s'appelle l'amygdale. Et comme l'amygdale, elle fonctionne toujours, les personnes, elles sont systématiquement sursollicitées, sont dans un état de peur quasi constant. Et le but, ça va être de redescendre un petit peu le feedback au niveau de l'amygdale pour que l'hippocampe, donc la voie lente de la gestion du stress, reprenne sa fonction normale. Voilà, c'est un petit peu technique.
En effet, voilà. Mais on vous suit. En tout cas, ce que vous avez mentionné dans vos propos, il me semble que c'est un peu votre méthode, c'est de rembobiner, si je puis dire, le fil de la pelote de laine, tout en défaisant les nœuds de tout ce qui a été vécu. Et quand on parle de tout ça, c'est un processus, hein. C'est pas un événement traumatique, c'est vraiment un processus qui s'installe sur la durée. Et vous, vous rembobinez, vous défaites les nœuds. Et ce que vous dites, c'est que les victimes ont en elles-mêmes le matériel de base pour s'en sortir. En fait, c'est vous qui essayez de révéler les outils qu'elles ont en elles-mêmes pour qu'elles puissent s'en sortir. Comment vous faites pour faire ça ?
Le but un petit peu de cette approche EMDR, effectivement, c'est qu'il accompagne quelque chose de l'ordre d'un processus naturel. A priori, les études sont à peu près toutes, en tout cas le chiffre est à peu près à 2 ans. On se rend compte que quand on prend une cohorte de personnes traumatisées, en général, au bout de 24 mois, il y a une espèce de rémission naturelle. Le problème, c'est que cette rémission naturelle se fait après 2 ans et que c'est quand même 2 ans de souffrance, 2 ans de perte de concentration, de flashback, de reviviscence, d'énormément de choses qui font que c'est extrêmement lourd et que le coût est très 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 important pour une guérison qui est des fois que partielle et qui se fait au bout de 24 mois. Mmh. Donc c'est long et ça se fait vraiment effectivement naturellement, mais c'est vrai que la thérapie EMDR ou d'autres, hein, c'est vrai que c'est pas la seule non plus, mais elle aide énormément à fluidifier les choses, à gagner du temps, et après les personnes peuvent reprendre effectivement le cours de leur vie et aussi avec leurs propres ressources. Il y a vraiment un aspect où généralement dans le cadre des violences intrafamiliales, en tout cas pour les victimes mères, parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup, des victimes femmes, elles veulent tourner la page, elles veulent s'en sortir. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, de l'ordre de dépasser, de tourner une page. Je passerai un petit peu sur le cas de certaines femmes qui, en termes de processus, sont encore dans l'idée de réparation. Il y a malheureusement certains profils qui sont dans l'aspect « je le connais, moi il ne me fera jamais de mal, ça va aller mieux ». Il y a aussi cet aspect un peu réparation. Quand elles ont dépassé ce stade, elles ont envie de s'en sortir. Et donc là, il faut vraiment se baser déjà sur cette envie, de quoi elles ont besoin. Et puis ensuite, à partir de ces besoins-là, nous, on peut accompagner. Et les psychologues, les thérapeutes ne sont que des accompagnants, finalement. On a effectivement notre expertise, mais on les accompagne. Et le but, à la fin, c'est qu'elles puissent vraiment se débrouiller par elles-mêmes une fois qu'elles ont été au bout du chemin.
Et on parlait des enfants tout à l'heure. Un enfant qui, par exemple, ne présente a priori aucun traumatisme, aucun signe, j'imagine qu'il faut quand même lui porter une attention particulière.
C'est peut-être à cette population qu'il faut faire le plus attention, parce que des enfants qui sont capables de dire de façon complètement désaffectivée que oui, effectivement, papa tape sur maman, puis des fois maman tape sur papa aussi pour l'arrêter, bref, qu'il y a un vrai climat et que les enfants ne montrent rien du tout... En fait, là, c'est un petit peu la contradiction entre ce qu'on va observer cliniquement et ce qui peut se passer dans ce petit esprit qui est en train de se développer. Là, pareil, les conséquences, on a du mal à les évaluer parce que ça peut effectivement donner des comportements qui vont être très axés sur le scolaire ou alors, effectivement, des comportements complètement lisses, ce qui arrive assez fréquemment. Ce sont des enfants qui essayent de compenser. C'est-à-dire que là, l'enfant essaye de protéger sa mère. Il essaye de résister à son père quand « donne-moi le carnet ». Et quand il amène son père sur le nouveau lieu d'habitation de la mère, c'est parce qu'on a un père qui a frappé, qui a été... Il n'y a pas eu de contraintes physiques, sauf que vous avez tous vu et on ne peut que constater qu'il y a eu une telle pression que en fait, l'enfant il peut pas lutter seul. Je crois qu'il avait à peu près 11 ans, c'est pas possible. Là, on le voit qu'il n'y a pas eu de contraintes, mais il y a eu D'accord ? C'est vraiment ça qu'il faut décrypter dans nos approches, peu importe que vous soyez éducateur, psychologue, ou même effectivement sur les secteurs de police ou d'accompagnement. Il n'y a pas contrainte, mais il y a contrainte quand même. Ça, il faut, on ne peut pas considérer que parce que le père n'a pas eu de geste, il n'y a rien eu.
Oui, mais comment vous traitez ces enfants, ces adolescents, par exemple, qui, face à vous, vous dites « Non, ça va, moi, je sais ce qui se passe, mais je vais bien, tout va bien, m'embêtez pas, entre guillemets. » Et pourtant, il y a peut-être quelque chose à détricoter d'un traumatisme qui n'est pas présent, qui n'est pas visible.
Chez les tout jeunes enfants, c'est je vais dire relativement simple, même si ça l'est jamais, c'est parce que lorsqu'il y a trauma, il y a des phénomènes de répétition traumatique, et notamment par le jeu. Quand vous avez des jeunes qui sont capables de rejouer des jeux violents, d'allure traumatique, où vraiment il y a de la reproduction de scènes qui ont été vues, ben là, il n'y a même pas besoin de demander à l'enfant de rationaliser, d'être dans des discours de « est-ce que tu peux expliquer ?» Il suffit juste d'observer.
Et là, c'est visible.
Alors là, qu'est-ce qui se passe ? Et alors, et ça, c'est qui ? Et puis en fait, ben, tout simplement, l'enfant... Il raconte, et nous, on se saisit de ce matériel-là, et en fait, c'est assez simple, finalement. Il suffit juste, effectivement, de prendre le pli avec le jeune, de, par exemple, avoir le matériel au niveau de l'UMJ. Une petite maison, un papa, une maman, des frères, des sœurs, des petites poupées, des figurines, et l'enfant, de lui-même, de toute façon, il va répéter. Il va répéter ce qu'il a vu. Et là, hop, on bondit là-dessus, et puis ben, on laisse l'enfant s'exprimer. Encore une fois, sur le même modèle que le protocole ENI-CHD, un discours libre vaut beaucoup mieux qu'un interrogatoire avec plein de questions fermées.
Bien sûr. Et pour les adolescents, peut-être réticents, vous avez dit le cas des enfants, c'est plus simple.
Pour les enfants jeunes, effectivement, c'est plus simple. Pour les adolescents, ça va effectivement un petit peu dépendre de leur présentation. On va avoir des enfants qui vont être très... adultifié ou parentifié. Donc essaye vraiment de prendre une place quasi horizontale par rapport aux parents. Dans ces cas-là, c'est une place qui est tellement entre le marteau et l'enclume que c'est difficile de les faire bouger. Généralement, avec certains adolescents qui sont parentifiés, ils aimeraient bien lâcher cette place, mais ils peuvent pas, parce que s'ils la lâchent, ça va repartir comme avant. Donc là, c'est vraiment compliqué, et c'est un des enjeux aussi de la justice. Hein. Mine de rien, il faut aussi que ce soit pris en compte.
Monsieur. Oui, bonjour, je suis conseiller en insertion professionnelle et je travaille pour la CALI. L'ensemble de vos interventions me semble plutôt rassurant, parce que j'avais des interrogations, notamment en regardant le film, mais je crois qu'il a été tourné en 2017, depuis, beaucoup de choses ont bougé. Et dans le film, j'ai l'impression que ce qui a vieilli, c'est la décision du JAF. Est-ce que je me trompe ?
Donc JAF, juge aux affaires familiales, hein, vous l'avez compris. Qui veut répondre ?
Alors effectivement, depuis le Grenelle, et puis même en amont, ça avait commencé effectivement l'évolution des décisions des magistrats au regard des violences intrafamiliales. L'enjeu du JAF, il se trouve effectivement dans le fait qu'on est sur une procédure civile avec des fois peu ou pas encore d'éléments au pénal ou des éléments dont le JAF ne peut légalement pas se servir, en tout cas pas à certains stades. Après, il y a quand même une évolution des décisions JAF parce qu'il y a une grande communication entre les magistrats qui se fait de plus en plus et qui doit encore plus se faire. Encore une fois, tout n'est pas parfait, mais effectivement, on doit tendre à mon sens à une meilleure harmonisation entre les procédures familiales et les procédures pénales. Pourquoi ? Ne serait-ce que dans la chronologie de la situation de violence intrafamiliale et les réponses pénales. Il faut qu'il y ait une cohésion, en fait. Vous ne pouvez pas avoir une procédure pénale en cours avec des décisions JAF qui ne prennent pas du tout en compte ce contexte. Ça ne peut pas être déconnecté, à mon sens. Hein. Alors, j'aurais tendance à vous dire qu'il y a de l'amélioration, effectivement, dans les décisions JAF, ça c'est une certitude, parce qu'il y a une meilleure communication entre les magistrats, parce qu'il y a aussi une meilleure formation, de manière générale, des magistrats à la question des vifs. Mais peut mieux faire pour tout le monde, en fait. C'est pareil pour tout le monde. Et effectivement, je pense que l'enjeu, là, dans les années à venir, enfin, en tout cas, à mon sens, c'est l'harmonisation entre les décisions JAF et les décisions pénales.
Je crois aussi qu'il y a une amélioration parce qu'il y a un mouvement de société. C'est-à-dire que c'est un enjeu sociétal. Les années 1970 jusqu'aux années 2000, nous sommes passés au sein de la famille de cette puissance patriarcale qui gérait le quotidien et l'organisation et ce qui faisait loi, à, vers les années 2000, la paix conjointe qui est bien abordée pour le coup dans le film. Et la paix conjointe, une fois que ça a été décidé. C'est une chose que de décider une loi. C'en est une autre que de pouvoir la faire vivre dans une société en fonction de la manière dont cette société avance sur la question, celle qui nous concerne, des violences conjugales, des violences intrafamiliales. En l'occurrence, quand la paix conjointe a démarré, la justice partait du principe que le couple parental allait faire en sorte, avec cette paix conjointe, de trouver des formes d'accord dans la question de l'éducation des enfants. En partant de ce postulat, c'était faire fi de la question des violences conjugales, nous sommes bien d'accord. Si la justice avait en amont eu comme sémantique que les violences conjugales existaient en l'état, qu'elles étaient nombreuses et qu'il fallait en tenir compte, les juges ne se seraient pas positionnés de cette façon, bien évidemment. Donc faire fi des violences conjugales, c'est ce qui s'est passé, ou des violences intrafamiliales, plus largement, c'est ce qui s'est passé, et je trouve que pour le coup, le film le montre très très bien. Et donc oui, une amélioration, semblerait qu'on ne puisse aller que vers cette amélioration, puisque tout est en train de bouger, la sémantique, notre façon de venir en parler. Vous voyez ce que l'organisation d'aujourd'hui, qui n'aurait pas eu lieu il y a 10 ans, donc cette évolution, elle est prégnante dans la société.
Oui, puis c'est dans les têtes de tout le monde. C'est-à-dire que ce sont des sujets qui avant étaient peut-être un peu tabous, qui maintenant le sont beaucoup moins.
Tabous, et c'est surtout qu'il y a des fois, ça n'existait même pas. Il y a peut-être une dizaine d'années, parler de viol conjugal, c'était juste impossible. Parce que c'est pas un viol, c'est avec sa femme. Donc l'évolution aussi de l'ensemble de la société fait qu'effectivement, apparaissent des délits qui ont toujours existé, mais qui en réalité, maintenant, sont considérés comme tels. Une femme peut aller relativement sereinement dans une gendarmerie en disant « je porte plainte pour viol conjugal », à une certaine époque, les gendarmes n'auraient absolument pas considéré cette plaignante.
Et aujourd'hui, c'est même un traitement, un dispositif tout particulier quand une femme vient se plaindre à vous.
Alors oui, en général, enfin en tout cas, les violences intrafamiliales, elles sont prises en charge de manière prioritaire dans toutes les unités de gendarmerie. Voilà. Donc elles se présentent, que ce soit pour du viol ou pour une agression physique ou agression sexuelle ou des violences physiques, elle est prise en charge de manière prioritaire, oui. Elle n'attend pas pendant 2 heures à l'accueil qu'on vienne s'occuper d'elle. Une fois qu'elle s'est annoncée et qu'elle explique pour quelles raisons pour qu'elle est là, elle est prise en charge automatiquement, oui. Ou alors, parfois, elle est accompagnée par l'intervenante sociale, elles prennent rendez-vous, comme ça elles ont encore moins d'attentes, elles prennent rendez-vous et elles sont prises en charge tout de suite à leur convenu.
Et le dépositaire peut être un homme ou une femme selon qu'elles souhaitent ne pas avoir affaire à un homme, si par exemple elles veulent avoir une...
Oui, tout à fait, on lui pose la question si elle souhaite être entendue par une femme de manière prioritaire, mais parfois ça les dérange pas d'être entendue par un homme. C'est à la demande en fait de la victime, si elle le souhaite vraiment, on lui trouve un gendarme féminin, mais la plupart du temps elles ne sont pas contre être entendues par un homme, hein. Oui, ça dépend.
Alors néanmoins, dans la visibilité de ces affaires-là, Baptiste, vous m'avez souligné que quand souvent il y a violence intrafamiliale, il peut y avoir isolement de la victime par l'auteur et par divers mécanismes qui fait que la victime n'a finalement personne à qui se plaindre, ne peut plus même aller se réconforter auprès d'amis ou d'autres pairs tant qu'elle n'a pas entamé cette procédure avec tous ces dispositifs officiels.
Oui, c'est un des grands classiques, on l'observe quasiment tout le temps en fait. C'est effectivement une des conséquences, une des multiples conséquences du fait de devenir objet de l'autre. A plus besoin des autres puisque tu m'as moi. Donc finalement, les amis, la famille, les lieux sociaux et puis aussi à plus forte raison après, le travail. Pourquoi tu travailles ? Moi je ramène suffisamment d'argent, donc tu peux rester à la maison. Et c'est souvent très rationalisé, ça peut être des fois un petit peu sur de la persécution, mais encore une fois, il y a vraiment ce mécanisme d'inversion accusatoire qui fait que des fois les amis vont dire ton nouveau compagnon, il est particulier, il devrait pas te parler comme ça. Et puis quand le compagnon lui présente son aspect des choses, tu vois, elle m'aime pas, tu vois ce que ta mère nous fait faire, enfin j'ai plus exactement la phrase, mais vous avez ces petites touches d'inversion accusatoire et finalement ben, l'extérieur devient négatif et puis ben, une fois que la personne est complètement recluse au domicile, ben, là il n'y a plus d'échappatoire, je ne peux plus m'échapper, j'ai plus d'extérieur pour un petit peu me décaler, me dire oui effectivement c'est pas normal, la victime se trouve face à elle-même et puis quand il y a des enfants c'est encore plus dur de partir.
Mais est-ce que ça peut pas être un signal d'alerte en tant que témoin si une personne, on la voit de moins en moins depuis qu'elle est en couple, si on sent qu'elle est de moins en moins présente, elle s'isole, est-ce que ça peut pas être un signe d'alerte en disant attention, il se passe peut-être quelque chose, sans tomber dans la paranoïa hein?
Ça, alors ça l'est, ça devrait surtout être un signal d'alarme pour les victimes elles-mêmes et c'est là où la prévention devrait faire tout son sens, c'est-à-dire que il faudrait diffuser, mais même très jeune, moi je pense que dans les collèges et les lycées il faut à un moment donné que ce soit dit abondamment, quand votre petit copain ou votre petite copine vous demande de ne plus avoir de contact qu'avec vous, ce n'est pas normal, il y a aussi un petit peu d'éducation, pas tellement à la sexualité mais en tout cas à la relation d'adulte telle qu'elle est en train de se former, et non c'est pas normal de n'être que avec une seule personne et de n'avoir plus que cette personne en ancrage.
Il y a des formations d'ailleurs au niveau du conseil départemental, au niveau de la direction de la santé, des professionnels interviennent dans les collèges et les lycées aussi, pas seulement, mais de plus en plus sur le versant des violences dans la relation amoureuse, de façon à faire émerger très tôt chez les jeunes une prise de conscience. Ces professionnels en profitent souvent pour parler du violentomètre et s'appuyer un peu sur lui pour faire émerger une prise de conscience. Et oui, plus nous agirons tôt, au plus près des enfants, le plus tôt possible, le mieux possible, c'est-à-dire en pluridisciplinarité, mieux nous pourrons venir combattre, freiner cette question des violences conjugales, des violences intrafamiliales, et permettre qu'au sein de notre société, ce qui est installé de très longue date, parce qu'il pas pour rien que le pourcentage de femmes est plus important que le pourcentage d'hommes en tant que victimes aussi. Et je crois qu'il faut oser aussi le mettre en avant sur cette question de la place de la femme et de la relation de l'homme et de la femme en tant qu'identité de genre.
Ce que vous disiez au début, socio-éducatif, le mot éducatif, il n'est pas là pour rien non plus.
Tout à fait.
Il nous reste 3 minutes à peu près pour les échanges, donc si vous avez une intervention, c'est maintenant.
Je suis Monsieur Masreveri, je suis directeur de la résidence hôtelière Le Prado qui a ouvert récemment sur Libourne et qui a notamment pour mission de pouvoir proposer des logements un peu en urgence à des personnes victimes de violences conjugales. Aujourd'hui, j'ai été interpellé par la voisine qui alerte les services de police et qui est laissée pour compte, finalement, qui se retrouve complètement isolée, à qui personne n'adresse la parole. On lui ferme même la porte des victimes au nez. Et je pense que c'est une difficulté, enfin quelque chose à réfléchir autour de qu'est-ce qu'on fait des personnes qui ont pu alerter, qui ont pu signaler, qui ont pu prendre une place importante, qui ont peut-être même pu sauver des vies, voilà, et quel retour on peut leur faire des actes qu'elles ont pu mettre en œuvre.
Alors moi, je me permets juste de dire que dans le film, effectivement, c'est pas très représentatif de la réalité, parce qu'en réalité, quand on intervient, on ira d'abord voir cette personne qui a alerté, qui a appelé. Dans la majorité des cas, cette personne, et si elle l'accepte, elle sera entendue en tant que témoin pour justement matérialiser si ce type de fait, de violence, de cri, de dispute était régulier. Donc elles ont une place prépondérante en tant que témoin dans les procédures, en tout cas judiciaires.
Les valoriser pour inciter à reproduire un peu.
Valoriser, c'est difficile de valoriser quelqu'un dans le sens en lui disant oui, c'est très bien ce que vous avez fait, c'était la bonne démarche. Maintenant, après, on peut pas faire de la prévention en disant ben, faudra nous appeler à chaque fois que vous allez entendre quelqu'un parler un peu fort. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais par contre, oui, effectivement, quand la personne elle est là et qu'elle accepte d'être entendue en tant que témoin dans une procédure où il y a eu des violences, on lui explique vraiment que c'est le bon geste qu'elle a eu et c'est vraiment ce qu'il fallait faire, quoi, vraiment.
Au-delà de ça, je pense que cette dame, elle peut aussi se satisfaire de l'acte citoyen qu'elle a effectué. effectuer, dans la mesure où c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense qu'il y a une différence entre l'acte de dénonciation qu'elle a fait et qui est, à mon avis, en tout point positif, là je vois rien de négatif, que d'un acte de délation, d'accord ? C'est vraiment deux choses très différentes.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, madame ?
Bonjour, je m'appelle Jessica Martin, je suis infirmière. On a beaucoup parlé, et on parle d'ailleurs, et c'est très bien, des victimes, mais par rapport aux agresseurs, quand vous les rencontrez, combien d'agresseurs ont envie après de se soigner ? Est-ce qu'ils prennent conscience de tout ce qu'ils ont fait, parce que vous disiez que c'était 85% qui étaient eux-mêmes maltraités ou agressés. Est-ce qu'ils arrivent à prendre conscience que tout ce qu'ils ont mis en place dans leur relation, tout ce qu'ils ont fait subir à leur famille, c'était pathologique?
Oui, il y a cette question de la remise en question qui paraît essentielle. Qui veut répondre ? Stéphanie.
Alors, moi, à Victel, je reçois que les victimes. J'ai pas de lien avec les auteurs. Pour autant, à Libourne, on a, au niveau judiciaire, des réponses pénales particulières qui s'appellent les mesures alternatives aux poursuites. Ce sont des réponses pénales qui se situent entre, en gros, le rien du tout et le procès classique que vous connaissez. Dans le cadre de ces mesures alternatives aux poursuites, on informe donc, nous, la victime de la mesure qui est prise, et il y a un suivi judiciaire du mise en cause pendant 6 mois par un délégué du procureur. Est-ce qu'il y a effectivement des hommes qui prennent conscience de ce qui s'est passé et qui évoluent ? La réponse, elle est oui, il y en a. Heureusement, dans ce type de mesure, alors certes, c'est pour des violences, alors j'aime pas le terme, mais dites légères, il était témoin 8 jours, ou des premiers faits, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu encore de récidive. Donc c'est aussi le but de ces mesures, c'est d'arriver en fait au plus tôt et d'enrayer le mécanisme. Et effectivement, ça marche, on a peu de récidive. Ce suivi judiciaire avec des délégués du procureur qui sont souvent d'anciens gendarmes, d'anciens capitaines, etc., qui ont aussi une perception particulière, qui savent faire passer des messages aux auteurs quand ils les reçoivent. Effectivement, il y a quand même un dialogue. C'est pas juste un rendez-vous judiciaire. On leur dit, c'est pas bien ce que vous avez fait, tape sur les doigts, et puis dans 3 mois, vous revenez, j'espère que vous aurez été sage. Non, il y a un vrai message qui est passé. Et effectivement, on a des retours, parce que nous, en parallèle, on suit la victime pendant 6 mois également, et on le voit, on a des retours très positifs. Oui, ça a changé. Oui, ça s'est apaisé. Oui, pour les enfants, on arrive de nouveau à communiquer. Alors, voilà, c'est évidemment, il y aura toujours des ratés, il y aura toujours des récidives, mais ça existe. Il faut le dire aussi, ça existe des prises de conscience. Et dans un deuxième temps, pour vous répondre, Victed, on a été sollicité par le SPIP, le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation, pour intervenir dans des groupes de parole auteurs qui sont organisés par le SPIP dans le cadre de leur suivi d'auteurs condamnés et sur volontariat souvent, soit des auteurs, soit dans le cadre de leurs obligations. Hein. Mais effectivement, il y a ces groupes auteurs et on a eu la chance d'être, on va dire, invité à l'une de ces séances et c'est très intéressant et j'espère de tout cœur que ça continuera parce que effectivement, ce sont ces moments-là qui sont très importants pour effectivement mettre au travail la position des auteurs. Et c'est là qu'on voit effectivement qu'il y en a qui restent sur leur positionnement, qui ont du mal à mettre au travail tout ça, hein, ces questionnements sur le positionnement. C'est l'homme qui doit prendre des décisions, etc. On le voit, ça, c'est pas un imaginaire. Hein, y a des hommes qui réfléchissent encore comme ça. Et tout ça, ça doit se mettre au travail. Et le SPIP, là-dessus, engage effectivement, je trouve, en tout cas, des actions pour lutter contre la récidive et notamment en mettant au travail tout ça. Et je pense qu'on est sur une bonne voie là-dessus.
Et j'ajouterai à ça l'apprentissage de la maîtrise de ses pulsions. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent « c'est pas moi sur le moment, un grand moment de colère, j'étais pas moi-même ». Et apprendre à maîtriser ses pulsions, ça fait aussi, à mon avis, partie des solutions. Je crois, malheureusement, moi, ce qui est une dernière intervention, oui.
Bonjour. Alors, Carole, je suis éducatrice en ITEP et intervenante en point rencontre, mais également coordonnatrice de justice restaurative. Je suis surprise parce qu'on parle beaucoup de la prise en charge individuelle, donc de l'auteur, il y a des choses qui se mettent en place, et de la victime. On parle peu, en fait, des personnes autour, donc on voit la sœur qui intervient, qui est également touchée, les grands-parents qui sont touchés par la violence, mais il me semble qu'au niveau pénal, il y a quand même la justice restaurative qui est un droit à la fois pour les victimes et les auteurs, et on n'en parle pas. Donc c'est vrai que ça a beaucoup de mal à se développer dans notre département, et pourtant c'est un outil qui me semble essentiel pour justement aborder la violence, aborder ce que chacun a ressenti, où tout le monde peut s'exprimer.
On note, effectivement, ça peut être une bonne piste d'amélioration.
Et c'est pris en charge par le SPIP quand c'est pénal.
Merci beaucoup en tout cas de vos interventions, de vos échanges. Affaire à suivre donc sur les réseaux de Victed. Vous pouvez une dernière fois applaudir nos intervenants. Merci à vous d'avoir participé. Merci au cinéma Grand Écran de nous avoir offert la salle. Et puis merci à vous d'avoir co-organisé cette journée.
Une production Iti Radio.